R22,
tout monde,
antenne, radio, bois.
Festival Poétesse.
Qu'est-ce qu'une femme poète ?
Histoire, création, politique.
Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au colloque Poétesse. Nous allons ouvrir cette dernière après-midi par deux lectures de poètes, Sophie Loiseau et Rim Batal. Sophie Loiseau est poète, elle vit entre Versailles et Arnouville-les-Mantes. Son univers est marqué par la présence de la nature, une nature qui fraye avec le fantastique, le mythologique, avec le désir et la sexualité. La question de la visibilité du féminin dans la langue est au cœur de son travail. Elle est l'auteur du terme pluriel équitable qui vise à sortir le féminin de l'implicite et de faire coexister les marques des deux genres au pluriel. Parmi ses derniers ouvrages figurent Trilogie de Diane, La femme lit, paru chez Flammarion en 2009, Le roman de Diane, Poésie fiction 1, Réo, paru en 2013, qui a eu le prix François Copé d'Académie française en 2014, mais aussi Lys avec des dessins de Bernard Noël, paru chez Ficile en 2014, ou La chambre sous le saule, avec une postface de Michel Deguy, paru en 2017, Ma maîtresse forme, paru à Champvallon en 2017, ou Les loups, paru chez Corti en 2019. Sophie Loiseau va nous lire un extrait de Les loups, publié chez Corti en 2019, un extrait qu'elle a intitulé « Est un loup quiconque de la nature et par nécessité à elle ». Sophie Loiseau, on vous écoute.
Bonjour et merci d'être là. Je vais vous lire des extraits de quelques poèmes choisis dans 5 de mes livres. Mais je commence par Les loups, qui est le livre juste avant Féerie, qui est sorti il y a très peu de temps. Alors, Les loups, Corti 2019, est un loup quiconque de la nature et par nécessité à elle. Un faisan n'est déjà plus un loup si élevé puis relâché et tiré dans la foulée. Les cygnes sont des loups, ils n'ont presque rien à craindre au centre du bassin ou ailleurs sur l'herbe. C'est pour ça qu'ils sont calmes et qu'on a rarement vu ça. Les derniers peuples nomades sont des loups. Moi non, née blanche et française, ma vie douce, pas du tout âpre, est la meilleure des vies pour une femme. Cette vérité du sauvage me risque à la vivre dans des bosquets. Et l'insécurité que je sens n'est pas le fait des bêtes. Bosquets, les contrées. Discrète et moi-même herbivore, je piétine en longeant les grandes fèves, déjà piétinées, donc sur les pas de quelqu'un. Je trouve ça inquiétant. Le passage s'ouvre à mesure. Mon entrée en leur royaume les choque. Assieds-toi, je m'exécute. Je lis. À côté, les herbes sont floues. Malgré la prise d'hormones, les bouffées de chaleur. Il peut s'agir d'une vie sauvage, mais la buse a senti ma citronnelle et, ah, l'enfuit. Ce bruit de motocuteur pour un si petit frelon. La poésie s'est-elle jamais exprimée là-dessus, sur l'ignoble angoisse physiologique des femmes autour de 50 ans ? Le maniement subtil des hormones, trop, et ce sont les seins qui tirent, adossés à l'arbre, au pied duquel. Complainte de la femme blanche. Toucher la terre avec la main n'a rien de transcendant. Mes yeux qui la caressent en passant, tandis que je roule en voiture, me trompent sur sa douceur de daim. Aucune aménité, à moins que la terre redevienne de la boue, et alors incroyablement dégoûtante et sensuelle. La terre elle-même, pour elle-même. Sauvage signifia enfer, combat avec la végétation, danse avec la bête. Or, sauvage, la terre, ne le fut jamais que pour l'homme et la femme blanche, dit Standing Bear. Bosquet, les contrées. La décontraction des arbres est palpable. À cause de l'absence de vis, tout le monde a pris cet air décontracté. Je baisse la garde dans un soupir. Les bêtes n'ont qu'à faire pareil, n'ont qu'à se fier à moi tant que je suis là. J'y vis de chaudes pensées et rends grâce pour l'accueil qui m'est fait le soleil par les vitraux, une telle convenance. Ma peau est aussi intelligente que celle de la sèche. Des impulsions colorées la parcourent, ce n'est que mon sang. Dans mon dévouement absolu à écrire, rien ne me différencie du samouraï si je devais manquer à cela. Je marque le seuil de 5 pierres blanches sans savoir qu'on souillera aux lièvres qui se sauvent. ne pars pas, trie entre les hommes, entre les bonnes odeurs et les autres. Je ne suis ni un chasseur blanc, ni un chasseur noir, qu'on souillera de la pire manière pour m'ôter le goût de revenir. Je ne te ferai rien d'ailleurs, je n'ai plus de mains, tu vois. C'est par les mains que le mal vient aux hommes. Un genre de marquage, je suis revenue, oui, dès le matin, et je le regrette, car maintenant, tout est gâché à l'endroit où j'avais fait pipi hier, dans une parfaite discrétion, un étron d'homme. Caudal, Flammarion 2013. Avant, je trouvais mon droit fil et déchirais. Le droit fil, au départ de toutes les déchirures. Dans « Ils avaient pris à travers champs, même le chien l'emporte sur la femme ensemble à se promener. Les enseignes, ajoutais-je, in petto, pâtissière, bouchère, l'entreprise lambda, mère et fille. Vainement, mu, poussé par pur désir. Qui trouble, qui remonte ? Mes petites oreilles pivotent. La femme mère, la femelle mère à elle soi, le choix du couvert, les bois, plutôt que la prairie, faut-elle qu'elle se cache. Poétique livre, lui, Diane. Elle a les yeux salés par la mer, je les la lèche, je le fais, l'écriture le fait, lécher Nina aux yeux pour adoucir le sel. Perds sa neutralité, si j'aggrave, je la fais, l'écriture la fait, lécher Nina aux yeux pour adoucir. Crire pour écrire, crire fut d'abord à l'origine de son expérience linguistique. Cet essai sur le genre, 20 ans majeste, mon retournement, celui d'Artémis, d'Orphée. Elle, il, vire, se retournant l'une l'épieur, l'autre la spectre. Que le féminin recouvre, visible et légitime dans la langue l'usage de ses reines, son troupeau, pour qu'à tout le moins ma langue soit sauve. L'effroi de la bête prise au milieu des voies en pleine modernité. Affranchir la bête de l'humain, slash E, mais pour qu'elle orale, l'humain, l'humaine de Dieu, la femme de l'homme, je, as, Diane, femme, non, lige. En vigueur, en sève, l'accord de l'adjectif, selon la vieille règle neuve, favre de Vaugelas, ouija. Au féminin, durement écrit, j'ose, elle pourfend. Préfixe en Diane. Diane signifiant grosso modo le fer de la lance, la pointe, le petit bout dur. Il arme n'importe quel verbe. Les auxiliaires Diane avoir et Diane être. La femme lit Flammarion 2009. L'usage a érodé il, neutralisation. Elle, résolument sexuelle, on dirait. Nous, vous, il, le masculin pluriel a submergé. Elles s'aiment encore pourtant. Comment signifier que elle comprend il alors qu'on subodore la présence de elle dans il ? Rien ne prouve qu'elle s'agisse d'une femme et d'un homme. Le contexte, bien sûr, est la coutume. La l'apprenant avec violence, telle chose à cette femme. En fait, au fait, elle, apostrophe exquis d'ambivalence. Elle y a nécessité à ce que j'existe visiblement à l'intérieur du texte, à m'emparer à mon tour de ma langue. Je tâche de récupérer ce qui a sombré dans le grand tout masculin. Renflouer serait assez juste. Mais l'occasion est rare et fabriquer des situations où trier le principe ne m'intéresse pas. La langue telle que conçue des hommes se défend avec subtilité, les liens subtils. Souvent l'opération s'avère difficile à cause du démaillage entraînant des bandades de la langue. Le roman de Diane, Rehaut, 2013. Le bain de Diane enceinte tient de l'emboîtement gigogne, femme au contenu, en plus de se contenir, elle. Une veine verte court de son flanc à son aine, de chaque côté. Les bassins reflètent ses seins décuplés, pointe noire et son sexe, le lui cache son ventre autrement. Nu au vu et au su dans le parc désert, nul ne le peut ni le sert. Le boisement dense et les ronces empêchent qu'on la surprenne au bain. L'eau découvre l'ovale du ventre proéminent. À l'heure mélancolique, elle se baigne. La vasque, dont les pieds sont des griffes, enfonce dans les feuilles de l'automne dernier, mise sous les tilleuls, quelquefois pleines de leurs fleurs. Pendant les 30 jours de l'Avent, tant hantée à elle, à sa venue. L'eau manque 100 fois de déborder, contenue à grand-peine une fois Diane I. Elle suffit d'une respiration ample comme la piscine à débordement. Cela ruisselle. Le long des flancs de la baignoire, l'eau n'en finit pas de ruisseler de façon fascinante. Dans l'écume, le motif remue, lion et l'antilope, elles s'étreignent, tant qu'ils se conservent à peu près nets. Quelqu'une dans le bain s'occupe à l'intérieur, quelqu'une dont le bain s'occupe à l'intérieur et autour. Il décante pendant l'immobilité sur elle, cercle sa gorge d'un dépôt, laiteuse le bras, la main, vers sa pince et dire l'ombre. Féerie Chamballon 2020, Tot au bain. De marbre jaspé, la cuve du cabinet des bains de Tot, le reflet des lampes est contenu là-dedans et bleu nuit à des heures. Une fosse ici de 6 mètres, une fois descendu les marches dans l'essence de Néroli et s'évasant en nappe. La cuve est un goulet, par là qu'en apnée Tot rejoint l'océan. Du fond des Akpalus foie ce trou positif de puits. De lait pour finir. Vibris, conte mélusinien. L'héroïne va au-devant de l'homme fée en allant dans la forêt. Il ne se montre qu'à une seule femme et son apparition est radieuse. Vêtue de blanc, la note dominante de la féerie, il irradie la douceur virile. L'homme fée renonce à s'en empirer pour vivre avec elle. La violation d'un tabou précipite la fin de l'idylle. Pas un chasseur, Vibris. Une sorcière. Elle approfondit ses visions grâce aux plantes, la belladone comme véhicule et parfaite qu'elle trouve dans la forêt. Il lui apparaît au milieu d'un nuage de spores. Il est à lui seul un feu tant il rayonne, son visage ancien réanime un souvenir. Elle s'emploie à le nommer sans y parvenir. Entre Yal, c'est la force des aimants. Elles jouissent dans leurs mains, dans leurs bouches. Se retrempent au cœur de leur vieil amour. À l'aube, il la rejoint, elle le prend en elle avec son odeur nocturne. Toutes les aubes, elle le prend en elle avec son odeur nocturne. Pas une seule fois, elle ne cherche à savoir, à percer le secret, parce qu'alors elle rêve et c'est presque aussi beau que d'être avec lui dans la forêt la nuit. Parfois, il lui offre une bête, vivante et tachée d'un peu de sang. Cette odeur qu'il ramène dans ses poils, aube après aube, qu'elle ramène sur sa langue la folle, elle veut pouvoir la prélever directement à sa source. Ne prends pas le risque de me suivre là où je vais, tu me perdrais. Elle ne le suit pas, elle piste une odeur. Vibris, conte morganien, où c'est l'héroïne qui part vivre chez l'homme fée après une rencontre bouleversante dans la forêt. L'homme, le blanc de son manteau, son attraction sexuelle ont monté d'un cran. Elles joignent l'autre rive du lac, la traversée en barque équivaut à un filtre d'oubli. À son arrivée, un jardin fléché de lumière, il abrite les vieux arbres du monde. Vibris a des orgasmes spontanés qui la terrassent. L'amour qu'Alphonse passe de main, de bouche, de sexe, ni les doigts dégageant la queue, ni les lèvres, ni la vulve ne sont plus nécessaires. Leur corps pâlir, sans se flétrir, devint aussi transparent que l'eau. Mais au début de la féerie, leurs genoux étaient pleins de jus vert. Vibris n'avait Dieu que pour le cerf qui apparaissait graduellement sous l'homme, que la jouissance évanouirait. Elle le maintenait au bord. Tant qu'elle le maintenait au bord, elle le voyait. Merci.
Merci beaucoup, Sophie. C'était très beau.
Merci.
C'est une poésie qui est marquée par la sensorialité. C'est vraiment très intéressant parce qu'on a entendu Aurélie Foglia lire et nous parler du tournant un peu écoféministe de son écriture. Et encore une fois, là aussi, on entend... dans les motifs, comme dans la manière de troubler les catégories, les dualismes nature et monde humain, cette volonté de troubler ces catégories-là, on entend aussi un peu une tendance ou une ligne un peu écoféministe. Et on prendra les questions tout à l'heure, mais entre-temps, là, on va du coup écouter Rime Batal.
Mais je vais juste dire que... Par rapport à l'écoféminisme, oui. Là, c'est quelque chose que j'ai entrepris depuis il y a au moins 20 ans de sa part.
Oui, bien sûr. Oui, je ne pense pas du tout que ce soit un effet de mode dans votre écriture.
Non, mais c'est vraiment, j'étais toute seule à l'époque, voilà, ça, enfin à peu près toute seule, oui. En poésie en tout cas. Voilà.
Mais c'est très agréable d'entendre cette généalogie-là et d'entendre justement ces voix, ces voix qui sont là depuis longtemps et d'entendre les échos qu'elles font avec des questionnements contemporains. Merci beaucoup. Je vais présenter Rim Battal, que nous sommes très heureuses de retrouver, puisqu'elle était intervenue ultérieurement lors de la séance de présentation du Festival Poétesse au Chicago Center à Paris, cette séance qui avait été organisée par Christine Planté et Damien Zanon, c'était en avril. Donc Rim Battal est poète et artiste. Elle est formée au journalisme et à la photographie à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat. Elle est diplômée de l'École supérieure de journalisme de Paris. Rim Battal propose un nouveau modèle de femme, d'amour et de corps politique à travers les mots, la performance et les arts visuels. Elle co-dirige le Bordel de la poésie avec Zoé Besmont de Senneville et Laura Littard. Elle a initié aussi la Biennale intime de poésie en 2018. Née à Casablanca en 1987, elle vit et travaille à Paris depuis 2013. Elle a publié 20 poèmes et des poussières, aux éditions Lanskin notamment. Elle a publié du coup Latex et 20 poèmes et des poussières et Latex aux éditions Lanskin. Elle a publié également L'eau du bain aux éditions Supernova. Elle a publié Transport en commun aux éditions Lanskin en 2019 et L'œil des loups en 2020 aux éditions Témoignage, c'est ça ? Si je me trompe.
Non, en fait, L'œil des loups est un feuilleton. Témoignage qui a été publié sur un site qui s'appelle Hymen Redéfinition.
Voilà, Hymen Redéfinition. Donc, on va mettre le lien tout de suite dans le chat. Et tout récemment, Rim Battal, vous avez publié Les Quatrains de l'All Inclusive aux éditions du Castor Astral en février 2021. Donc, vous allez nous lire un extrait de L'eau du bain, donc publié par Supernova en 2019. Le nombril du 9e mois est une nudité totale. Nous vous écoutons.
Merci, Elvina. Alors, L'eau du bain est un recueil en deux parties. La première contient une des sortes d'aphorismes et la deuxième partie est un poème. Je vais vous lire quelques-uns des aphorismes et ensuite le poème. Page 12. Je n'arrive pas à baiser dans ma langue maternelle. Page 14. À 19 ans, ma mère a exigé de moi un certificat de virginité, document officiel délivré par des adultes diagnostiqués sains mentalement, ayant étudié la médecine 7 ans durant, au moins. J'ai apposé mes empreintes digitales sur le certificat. C'était la première fois qu'on me prenait au sérieux. Un an plus tard, je me masturbais pour la première fois. Page 15. La première fois que j'ai baisé, j'ai pensé à ma mère. Je me suis dit profondément, This one is for you. Page 19. L'amour, ça apaise parfois. Encore faut-il le savoir faire. Page 21. Ma mère est assise sur le fauteuil en cuir. Le fauteuil en cuir est énorme. Son cul est énorme. Son cuir est authentique, vivant, massif. Le cul de ma mère courbe le fauteuil en cuir. Si ma mère était transparente, je la saurais assise à la courbure du fauteuil. Les corps massifs s'attirent parce qu'ils courbent l'espace-temps. Quand elle partira, le fauteuil reprendra-t-il sa forme initiale ? Page 23. Pour pisser, je pose mes cuisses sur le rebord de la cuvette et en basculant vers l'avant, tête baissée, près du sol, mes cheveux le balayent, je m'appuie sur mes mains. J'évite ainsi que mon urine n'effleure le poing du mari encore frais. Brûlure esquivée. On est loin du plaisir, mais la douleur m'est épargnée. Mère et putain trouvent encore une fois cause commune La levrette. Page 33. En apprenant que j'étais enceinte la première fois, ma grande hâte était de voir se défaire mon nombril, se déplier ce que ma mère avait noué 30 ans plus tôt. Voir, en son creux, dans les plis effeuillés, le geste opéré, la main, la délicatesse, la panique, la solitude enterrée, la tragédie originelle. Page 34. Le nombril du neuvième mois est une nudité totale. Page 37. Je pense à la naissance comme à la mue. L'enfant, couvert d'une peau enfin assez épaisse pour survivre, rejette l'ancienne, sans ménagement. La mère. La maternité, c'est la peau poursuivant le serpent pour lui demander des comptes, de la gratitude et de ne pas oublier son écharpe. Page 40. Je roule des boulettes de kefta entre mes paumes. Je roule un animal mort entre mes paumes. Je roule l'intérieur d'un animal mort entre mes mains. Je roule la mort d'un animal entre les mains. Je roule la mort. Je roule l'intérieur d'un animal mort sur l'extérieur d'un animal vivant. De cette mort, je vais nourrir mon enfant. Je donne la mort à manger à mon enfant qui la transforme en vie, s'étoffe en mangeant cette mort. Les enfants sont des machines à transformer la mort en vie, à transformer la vie en mort, en vie, en mort, en vie. Qui va gagner de la vie ou de la mort? Gagner quoi? S'agit-il de gagner? L'odeur de cette viande est forte. Je me demande si je sens pareil de l'intérieur. Le plus profond que j'ai été en moi est l'équivalent d'un majeur dans la bouche et dans la chatte. Page 41. Il est 5h58. Il fait trop chaud. En vrai, une brise fraîche traverse la pièce. Et la vie est moche. En vrai, c'est un jeu sublime. J'allaite mon enfant pour la troisième fois cette nuit. Page 44. Observez dans les traits de ma fille ceux de ma mère qui s'imposent à mesure des mois, comme si la vie jouait à saute-mouton au-dessus de mon dos et que j'étais celui de mouton qui était courbé au milieu. L'instant d'après, le sait, juste après, l'on sent encore le poids de celui qui a pris appui pour sauter, la douleur de l'échine courbée, le frottement des vertèbres entre elles, le rebondi, fragilité mécanique, et les genoux qui savent encore ce que c'est que de porter longtemps, même un instant, toute la masse du temps qui ricane, se savoir au pire moment, un entre-deux, d'où l'on ne sort que par la résignation. Page 45. L'épuisement. Ce n'est pas la fatigue, l'épuisement. C'est la fuite de toute substance, de la tête par les pieds qui fait flaque entre les jambes, comme si, dans un accès de démence, l'on eût pissé son âme. Page 46. Devenir est douloureux. Page 47. Petit A. Les petites douleurs sont plus grandes que les grandes. Petit B. Heureusement. Petit C. devenir est supportable. Page 54. En vieillissant, des corps flottent devant mes yeux. Je crois voir, mais en fait, je vois. Page 55. Maman, j'aimerais comme avant aller avec toi au hammam, te voir nue, me laver les cheveux deux fois, me les brosser, les dénouer, que tu te caches un peu pour te raser le sexe avec une lame, petite mais dangereuse, et que je puisse le guetter entre deux seaux remplis d'eau chaude, les vapeurs et notre myopie. Page 58. Naissance. Il n'est pas donné de se nommer soi-même. Page 59. Le sens d'un prénom et la personne qui le porte. Elle est enfin partie. Tout est sombre depuis deux jours. Il me faudra éteindre, rallumer trois fois avant de comprendre la lumière et son absence. Page 64. Une vie à ramasser du riz d'entre les lattes du parquet. Traquer les grains et le balai monotone. Flouer Thanatos à un coup. Et ce ne sera pas qu'un bras. Peut-être sont si près du sol, être mère, être mort, peu de choses les rapprochent-on. Page 65. On dit toujours « donner la vie », mais dire « donner corps » serait plus juste. Page 66. Action par laquelle certains animaux lancent une matière liquide. Ancien terme de physique, l'émission de la lumière, éjaculation des corpuscules lumineux, nom donné à certaines prières courtes et ferventes qui se prononcent à quelques occasions passagères, comme si elles se jetaient vers le ciel. Ceci est la définition d'éjaculation selon le Littré, édition de 1873-1874. Valable pour le lait de mer. Page 67. Le muscle ramolli, la chair branlante, des vergetures creusent le verger, le sein, sillonné, tend vers le nombril, un téton en forme de larmes joyeuses. Page 76. Mon enfant, à peine sorti de mon corps, le cordon à peine coupé, mon amant sur mon corps, sa main sur mon sein, qu'il aime, mon enfant sur mon sein, qu'il mange. Mon sein aime mon amant, mon sein nourrit mon enfant d'un côté, le cordon à peine coupé, mon amant d'un côté, le cordon à peine coupé, mon amant sur mon sexe, sa langue sur mon sexe, mon enfant à peine sorti de mon sexe, mon enfant sur mon corps, mon lait à peine coupé, mon amant jumeau, mon enfant corps, jument, jumeau, jument, jumelle, enfant mange, amant corps, enfant soif, mon amant à peine sorti de mon sexe, etc., etc., etc. Je lis la deuxième partie qui est un long poème. Si d'un doigt on le fait descendre, que de l'autre il arrive, clinquant et frêle, ruminant sa soumission, crachant sur son collier. Si d'un mot, il n'était plus qu'à main, si d'un coup d'œil, il était possible de le supplicier, l'amant, ordonner qu'on le jette au hasard, hors de la cité de mes bras. Que ce transport est mouroir, qu'il ne naisse jamais ce corps obscur, ce geste gris et fatal, entropie maxima, amor. Puisse-t-il brûler avant de me brûler, s'éparpiller en chantant, écraser, creuser les digues pour ralentir l'expansion exponentielle des premiers instants, creuser profond, plonger les deux mains dans le médiocre avec le sourire et le nœud ventre. Par mon et par vos, renie l'œil qui a vu, qu'il ne voit qu'en rose avec permission, faire monter les larmes tard et les garder au seuil de sa maison. Car en première approximation, tout cœur veut aimer. En dernière approximation, tout cœur veut être aimé. Pousse plafond, sagesse de dimanche, cours et croix, livre-mer et trait, initie tous les rouages jusqu'à en pâtir. J'en suis revenue. J'ai eu la chance, à condition. J'ai lu des noms étranges d'enfants. J'ai vu le transfuge en mouvement, furtif, se jeter dans mes bras et le masque providentiel d'un trône flamboyant attendre son tour pour s'écrouler. J'ai vu les hiboux marcher sur la route et louer ta viande quand tu me portais enfant. Était-il heureux? Était-il seulement? De petits marqueurs indiquaient le nord, venger maman de l'ennui qui martelait ses tempes. Jeter maman dans mes bras, dans un mouvement flamboyant. Maman est maligne, son rôle est bien rodé, elle invente sans répit, et tout se marche, pourvu que ça roule, pourvu que ça circule sans accroc, dans les rues dansantes d'ombres charnues. Maman est drôle, elle invente sans cesse une astuce, une tournure de phrases, des formules magiques, des sorts, une ruse, une migraine, des malédictions, des manèges montés par des djinns et des créatures étranges, des gifles bleus, des abracadabras à tour de bras, 100 kilos sur le cœur et des ficelles. Elle est accoudée à, elle est accouchée. Machinalement, elle égrène les subterfuges pour se sauver. Elle invente encore mille artifices et l'intrigue de sa multitude de petites combines avec l'art des grandes romancières, une finesse d'orfèvre avec la science d'alchimiste chevronné et l'adresse d'éminent diplomate, pourvu que ça roule, pourvu que ça roule, ça bosse sur les chemins du monde, brutal, pourvu que ça narre la longue histoire de l'absence et de la solitude. Jours se suivent, bruine, sirène sereine. Quelle foudre a déchiré ta hanche, fendu ton beau, en cru et mauvais. Crépite, bouge ton boule, pose tes sandales à côté, reviens, lente et minutieuse, ronde comme une poire gracile, ouvre tes vannes comme on lâche les chiens. Le marcheur postule la beauté dans tous ses appâts, sans ôter ses mercuriales. Badin, il colle ses naseaux sur les vitres de l'avenir. Il voit le chemin, le lac, la campagne. Suppose le temps. Suppose qu'il n'est que question de temps. Suppose que dans un temps, il sera chemin, lac et campagne. Le marcheur est l'amant. Quand il ne marche pas, il fait l'amour. Il fait l'amour en le pleurant. Il marche mieux qu'il n'aime, pleure plus qu'il n'aime, ne veut pas entendre. Cherche le sein dans la bouche, cherche le sein sans visage pour y apposer une paume. Cherche le lait dans le sexe, sans ôter ses mercuriales. Boit son désir jusqu'à la goutte, s'assoit en attendant la fin prochaine. En face, un cœur de satin noir, debout sur sa tige, c'est un gouffre. Une blessure à talons. Son parfum est teinté au chalumeau, pas gêné du tout par ses mains liées, par le désordre qui l'habite, pour se dire mère. Elle se vante, en marchant, droit sur ses aiguilles. Les escaliers se souviennent. Devant, le marcheur, déterminé. Elle flageole. C'est comme faire des longueurs dans une piscine, pas même olympique, pas même remplie, sans témoin oculaire. Ça ne fait ni vague, ni œuf, ni fruit. Elle suit son ombre et l'ordonne, reine, la fermeture immédiate de tous les orifices, l'examen de tous les cœurs, et les moutons seront bien gardés. Se redresse, resserre ses rangs, avance, marche, monte, nomme, Sisyphe en escarpin. Lui, non pas tourne autour d'elle, mais tombe à l'infini, vers elle, courbée, amoindrie, en spirale, détournée de la chute libre et droite pour laquelle il pensait naître, habitée, enfin, d'un feu qui lui échappe. J'ai jeûné parfois, sauté cette vague, trempé ma culotte 40 nuits. J'ai connu la nuit. J'ai rêvé debout, plié le genou, déplié. J'ai écrit sans compter ton nom à l'eau de safran. Il a fallu que j'enfante un monstre pour enfin être digne de mon idole. Merci.
Merci beaucoup, Rim Batal, c'était vraiment magnifique. Merci à toutes les deux. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le Framapad. Sinon, non, pour le moment, non. On va laisser le temps pour les auditeurs de répondre, enfin de poser des questions dans le Framapad. Mais d'ici là, je voudrais vous demander, Rim Batal, comme on vient de vous entendre, si le principe du journal a été important pour vous dans cette écriture du corps. On sent qu'il y a vraiment un principe de la notation, une économie du verbe. Voilà, comment est-ce que vous avez envisagé un peu cette écriture du corps et qui a pour décor un espace peut-être domestique. Je ne sais pas si vous le qualifiez comme ça, l'eau du bain.
Alors, en fait, à la base, ce livre, c'était des notes que je prenais pendant les dernières semaines de grossesse et ensuite pendant à la maternité après avoir accouché en période de postpartum. Et l'idée, c'était, j'avais envie d'écrire depuis cet endroit-là pour un peu essayer de raconter ce que c'est. Je n'avais pas encore une idée de forme. C'était mon deuxième enfant. La première fois, j'étais complètement balayée par l'événement. Et la deuxième, je me suis dit que c'était tellement important et puissant ce que j'avais vécu qu'il fallait prendre des notes. Donc, je prenais un peu des notes sur mon téléphone dans l'urgence avec l'idée de les étoffer, de les développer ensuite quand j'aurai le temps, quand je serai plus reposée. Et ce temps-là est arrivé à un moment, plus ou moins. Mais en relisant ces notes-là, j'ai décidé de les garder comme ça. J'avais peur de m'éloigner du sujet en essayant de broder autour a posteriori. J'avais envie de garder un peu cette urgence de la note qui illustre aussi l'urgence dans laquelle elle manque de temps et le fait d'être absolument submergée par tout un tas d'émotions, de souvenirs, l'ouragan que c'est de porter un enfant et ensuite d'accoucher et de devenir mère. Et avant, quand j'ai eu ma première fille, je cherchais aussi des ouvrages qui parleraient de cette manière-là de ce temps qui peut arriver dans une vie. Et j'en trouvais pas, en fait, qui abordait à la fois le fait de devenir mère, mais aussi le fait d'être la fille d'une mère et de s'inscrire comme ça dans un entre-deux. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais...
Oui, merci beaucoup, c'est une réponse complète. Et ce qui était intéressant dans, dans les deux lectures qu'on a entendues, c'est qu'on a circulé entre des temps différents du corps. Dans la lecture de Sophie Loiseau, on a entendu ce temps aussi de la ménopause avec les bouleversements hormonaux que ça induit. Et là, on a ce temps de la grossesse. Sophie Loiseau, si vous nous entendez, est-ce que vous voulez vous aussi partager la manière dont vous avez voulu élaborer cette écriture du corps dans ces bouleversements hormonaux?
Oui, enfin, je parle aussi de l'enfantement hein, et d'être enceinte aussi. Quand même, il n'y a pas que la ménopause. La ménopause, c'est ce que je dis à un moment donné au début. Mais il y a aussi beaucoup question de d'être enceinte et ce que c'est qu'être enceinte quand on est poète, en fait. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez.
Si, parfait.
Oui, très bien.
D'accord,
très bien.
Pardon, ok, d'accord. Et donc, moi, je rejoins effectivement RIM, c'est une expérience très physique, mais en fait, c'était juste une espèce de comment dirais-je, c'est-à-dire que la poète est rentrée, j'allais dire, en grossesse, et la grossesse est rentrée dans la poète, je ne sais pas, les choses se sont faites comme ça, et moi, je sais que le lendemain de mon accouchement, je mettais ma fille au sein et j'écrivais, et je n'ai pas cessé d'écrire, je crois qu'à aucun moment... Pratiquement, oui, vraiment, il n'y a pas eu d'interruption. C'était une sorte de vitalité comme ça qui se poursuivait. Voilà, c'est un fil comme ça. L'écriture est si près de la vie en ce qui me concerne. L'écriture n'est pas un médium pour moi. C'est juste mon corps qui se, mon esprit qui s'élargit peut-être. C'est une espèce d'exosquelette en fait, peut-être, je ne sais pas. Et pour la ménopause, oui, effectivement, c'est vrai que c'est aussi, je pense que c'est aussi valable d'en parler. Je crois que tous les états du corps de la femme, tous les états, finalement, influent évidemment sur le mode de vie, sur la pensée. Et c'est vrai qu'on parle pas de ça. Et la ménopause, c'est juste un état absolument qui est une angoisse vraiment physiologique. Voilà. Elle n'est pas psychologique, elle est physiologique. Et voilà, donc tout est, j'allais dire, tout fait. La poésie fait feu de tout bois, voilà, simplement, c'est la vie.
J'ai une justement, ces états... Pardon, oui, allez-y.
Pour Sophie, parce que moi, quand j'ai commencé à écrire L'eau du bain, je ne suis pas sûre que je l'aurais écrit si je n'avais pas le téléphone et si je n'avais pas cette facilité-là, en fait, d'écrire comme ça sur l'instant et de prendre des notes sur mon téléphone. Et je ne sais pas comment ça a été envisageable pour toi, comment tu procédais
Mais moi, c'était le petit carnet. Hein. Voilà, j'ai toujours un carnet avec moi. Après, l'essentiel se fait, effectivement, le travail vraiment, j'allais dire, de création se fait sur l'ordi, sur l'ordinateur. Mais le bon vieux petit carnet de notes, en fait, c'est bien, quoi.
Merci.
Merci à toi, Arim.
Et je rejoins Elvina, mais en effet, je pense que toute l'attention s'est concentrée sur le moment où tu as parlé de ménopause, justement parce que, en effet... Mais on n'entend jamais parler de cette phase de la vie d'une femme, alors que c'est ultra important et que c'est important de s'y préparer, notamment à travers la poésie, de savoir ce que c'est. Mmh. Et je pense que la poésie est très, très puissante et efficace pour parler de ce genre d'étape très particulier et qu'on vit de façon très, très différente. J'y suis pas encore, mais je suis vraiment curieuse de la chose. Et je l'ai vécu à travers les femmes de ma famille qui se transformaient devant mes yeux, ma mère, mes tantes, etc., que j'ai vu beaucoup, beaucoup souffrir de ça. Et alors qu'à côté, dans la littérature, on trouve pas grand-chose.
C'est vrai. La poésie, c'est vraiment le lieu...
de micro-expérience que... peut vivre le corps masculin pour... Ça, c'était un peu gratuit. Mais... mais voilà, merci.
Et oui, bah, ce qui est frappant dans votre écriture, Sophie Loiseau, c'est que le corps dans ses états intérieurs se donne beaucoup au dehors, en fait, et le dehors interpénètre le dedans. Et justement, Camille, je crois que tu avais une question à ce sujet. Est-ce que tu veux la dire à haute voix?
Oui, bah, je peux la dire à haute voix, mais tu as à peu près résumé ce que j'avais en tête. Je pense que ça, c'est un fil qui m'a un peu, malgré toute la diversité de vos lectures, hein, l'attention de ces deux lectures au flux, au fluide sexuel, corporel et à l'interpénétration du corps avec l'extérieur, de l'intérieur avec l'extérieur du corps. J'ai trouvé que c'était vraiment très frappant et très beau dans vos deux lectures. Et voilà, j'aurais voulu savoir à quel point ce motif vous travaillait s'il vous travaillait particulièrement. Et voilà.
Enfin, moi, il me travaille particulièrement, en effet. Je crois qu'il y a toujours la crainte de l'intrusion chez moi, qui est toujours latente, hein, même pas, ouais, qui est vraiment là. Et je pense que quand on est une femme, oui, on pense l'intérieur et l'extérieur d'une façon, je pense, très spécifique. Effectivement, il y a toujours, toujours le spectre, quelque part, de l'intrusion. Et donc, comme moi, je travaille beaucoup en extérieur, et bien, en fait, j'ai besoin quand même de me constituer une petite carapace, une petite cachette. Et donc, ça, c'est très important. Et toujours de veiller, je me sens comme la biche, en fait. Hein. J'ai très envie de paître au grand jour, mais je me méfie toujours un petit peu et j'ai fait pas mal de mauvaises rencontres. Voilà, quoi. Mais sur le plan psychique aussi, hein, c'est assez important. Hein.
Lenaïg Cariou nous disait dans le chat que ce que vous disiez, Sophie, au sujet du fait d'écrire, mais aussi Rim Battle, au sujet du fait d'écrire et de créer en même temps, il y a un mythe, le mythe platonicien pose ces deux attitudes comme une alternative, quoi, c'est-à-dire c'est l'un ou l'autre, et du coup vos deux écritures en fait viennent justement conjuguer, articuler et permettre au texte, à la poésie d'imprimer en fait ce corps en mouvement et la question de l'accouchement et tout ça.
Je pense qu'on est comme des déesses, en fait. Hein. On fait tout. On est à la fois créatrice. Enfin, on est créatrice à plein de niveaux, voilà. Et sur le plan intellectuel et sur le plan physique. Et tout ça s'interpénètre. Et voilà, on est assez puissante, en fait, je crois.
Complètement. Et c'est vrai, merci Lenaïg de le relever. En effet, pour dire précisément sans commentaire, ça brise, je cite, ça brise aussi le mythe platonicien de l'alternative entre donner la vie ou créer des œuvres. Et c'est tellement juste, Lenaïg, tu poses le doigt vraiment sur quelque chose de très, très, qui est la peau dure en fait, parce qu'aujourd'hui encore, on s'attend à ce que les artistes femmes qui enfantent s'arrêtent de créer ou s'arrêtent d'écrire, ou alors quand on est femme, qu'on écrit, enfin femme, donc être gestant, qu'on écrit ou quand de la poésie ou autre, dès qu'on prend en charge la question de la maternité, on devient la bonne femme qui va nous parler de gosses, etc. C'est pas très valorisé, ça ne l'a pas été pendant longtemps, et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de complètement changer à ce niveau-là, de se transformer, et on est beaucoup plus à l'affût de ce genre de texte et de ce genre de positionnement, et à l'écoute de positionnement comme ça, quoi. Et moi, je les ai cherchés, je cherche des textes comme ça, et je connais
aussi, et je suis face. Ouais, c'est très juste ce que tu dis, Rim, d'autant que on va dire que peut-être à partir des années 2000, hein, je pense que vraiment les femmes se sont mises à parler de ça, je dirais ça, parce que je connais beaucoup d'amis poètes, beaucoup plus âgés que moi, qui, alors après, je ne connais pas leur histoire complètement, mais je crois qu'il y a beaucoup de renoncement chez les poètes d'avoir un enfant, hein, beaucoup de, voilà, peut-être ce risque-là était tellement énorme, tellement grand, que certaines ont préféré ne pas enfanter, en fait, pour favoriser ce travail de création. Et moi, j'ai voulu tout, absolument. Et vers les années 2000, moi, j'ai d'autres amis poètes de mon âge qui ont été aussi enceintes et qui, voilà. Mais on s'est autorisé, parce que je crois qu'il y a quelque chose là qui est assez récent, effectivement.
Et c'est pas si évident, parce que je rejoins complètement ce que tu dis, je m'y retrouve. Moi, j'ai toujours eu ce truc de « je veux tout », en fait, et puis point. En revanche, je me souviens d'avoir beaucoup, beaucoup pleuré au début de ma première grossesse en me disant « ben voilà, c'est finalement, je renonce à l'art et à l'écriture », alors que ça n'a tellement rien à voir, parce que nous-mêmes, on a intériorisé cela, en fait. On se dit, voilà, je vais mettre tout mon amour, l'amour divisible, dans mon enfant, élever mon enfant, etc. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps de s'occuper d'un enfant, de soigner, élever, éduquer, mais ça n'empêche pas du tout le travail créatif, et bien au contraire, moi, j'ai trouvé ça tellement stimulant. Sophie, tu disais que c'était une sorte de flux tendu d'écriture, de mots et d'idées que tu explorais en s'occupant de ton enfant. Donc, il n'y a pas de choix à faire entre les deux.
Non.
Il faut justement briser ce mythe, il faut que ça s'arrête.
Et il y a une remarque de Maryse René Ertiman sur YouTube qui nous dit que ces questions-là ne sont pas valables uniquement pour les êtres gestants, gestanteux, mais aussi pour les personnes qui ont plus généralement choisi la maternité, que cela passe par la gestation ou que cela passe par d'autres moyens de devenir ou d'être mère.
Oui, oui, tout à fait.
Complètement. Complètement.
Je voulais, alors cette question de la matérialité de l'écriture est vraiment très intéressante. Et pour l'anecdote, la semaine dernière, on était en résidence à un lieu pour respirer avec plusieurs organisatrices du colloque festival pour des ateliers de traduction et d'écriture. Il y avait aussi une poète, Marion Renaud, qui était en résidence avec nous et qui a travaillé autour de nous. Et pour un ensemble de raisons, il se trouve qu'elle est venue avec son fils de 2 ans et demi. Et il fallait pour elle à la fois s'occuper de lui et trouver des espaces de travail à cet endroit-là. Et donc, oui, ce n'est pas forcément antagoniste, mais effectivement, il fallait vraiment jouer d'écoute pour qu'elle ait un espace de travail à un endroit, quoi. Et qu'effectivement, on ne peut pas être partout. Il y a aussi des questions très matérielles de temps, de disponibilité et qui se posent, quoi. Voilà.
Moi, quand j'avais ma fille, donc toute petite, effectivement, j'emmenais partout. Il y avait toujours une bonne âme, voilà, dans l'assemblée, ou voilà, qui pouvait la prendre un petit peu le temps que je lise. Ça n'a jamais été un vrai problème. Je trouve que le problème, quand on vient d'avoir un bébé, quand on est, pour moi, hein, parce que moi j'ai toujours vécu seule avec ma fille, même si, voilà, moi il y a un homme dans ma vie, tout ça, mais j'ai toujours voulu être. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'enfant en soi qui est problématique dans la vie d'une femme qui écrit, c'est l'homme. Voilà. Moi, je dis ça. Je pense que si on est débarrassé de plein d'injonctions, même si l'homme est gentil, même si le compagnon est adorable et tout, mais si on vit avec lui à 100%, moi, je peux pas écrire. En tout cas, c'est clair. Il faut que je me tire. Il faut vraiment que je trouve un espace. Donc, c'est pas l'enfant, je dirais que c'est l'homme qui pose problème pour la liberté après de l'écriture.
Alors, il y a énormément de réactions. Je vais en lire quelques-unes. Mais il y a aussi Judith Slutler qui nous dit qu'elle est, elle est très heureuse d'entendre ce que vous dites, puisqu'elle a cette angoisse de devoir faire le choix, donc entre avoir des enfants ou écrire, j'imagine, et que c'est la première fois qu'elle entend dire que c'est un mythe. Et donc, elle est très heureuse d'entendre ça. Il y a Anne Debrosse qui nous dit également que ça lui rappelle le topos de la jeune femme qui doit abandonner sa carrière littéraire ou son écriture à partir du moment où elle se marie. Et justement, les Dames des Roches qui ont été évoquées ce matin et bien d'autres mobilisaient cette question-là également. On a aussi une question. Camille, peut-être tu veux la dire à haute voix, ta remarque ? Ah non, c'est une réaction sur YouTube.
Je retransmets en fait les commentaires, parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur YouTube. Ah oui. Donc simplement, une personne dont le pseudo est Miette nous dit qu'il y a aussi Nancy Houston qui travaille cette opposition dans son journal de la création, ouais. Qui est un journal de grossesse plus des biographies de couples d'écrivains et écrivaines.
Ouais,
vraiment, elle insiste sur la complémentarité entre les deux. Mm. Et je profite pour mettre tous les compliments qui tombent sur YouTube.
Je voudrais juste rebondir sur quelque chose qu'a dit Sophie sur le fait que ce soit l'homme le problème.
Parfois, pas tout le temps. Hein, je veux dire.
Parfois, bien sûr.
Mais je pense que c'est une charge supplémentaire à gérer. Voilà.
C'est une charge.
C'est plutôt comme ça que je voulais dire en fait.
Mais je veux juste aussi apporter, enfin contrebalancer, dans le sens où il ne faut pas lâcher l'affaire. Non plus quand on est déjà en couple avec un homme qu'on a choisi ce mode de fonctionnement c'est un travail de tous les jours mais si on se positionne très vite et d'emblée en tant que femme qui crée voilà ma poésie mes textes sont avant tout mon art est là et ensuite on construit une vie de famille autour de ça c'est possible. En revanche, de temps en temps, bien sûr qu'il y aura des petits reproches, des machins, mais ça, personnellement, ça ne m'a jamais empêché de essayer de m'organiser, de partir avec toujours des sortes d'arrangements, etc., et une organisation, quoi. Mmh. Mais en effet, je te rejoins, ce n'est pas forcément les enfants le problème. Après, pour la question de la résidence d'écriture, donc ce lieu à soi dont on peut disposer de temps en temps. Il y a récemment Colline Pierret et Julia Kerninon qui ont soulevé un problème qui est vraiment un problème. C'est que la majorité des résidences qui sont rémunérées et donc proposées aux auteurices sont des résidences longues qui sont voilà, qui courent de 1 mois, 3 mois, voire plus. Or, quand on est mère et qu'on a à charge des enfants en bas âge, on ne peut pas se libérer autant de temps, en fait.
Ouais.
Et elle relève ce point-là qui est important et demande à ce que ces résidences soient fractionnables, qu'il y ait plus de résidences d'une semaine, ce qui est un temps où on peut énormément travailler. Quand on est bien organisé, structuré, on arrive à faire beaucoup, beaucoup de choses en une semaine. Voilà.
Et j'ai peut-être une dernière question. Question, pardon. Vous avez une réaction, Sophie ?
Oui, je voulais dire qu'en fait, moi, je n'ai pas l'expérience de ce que c'est que vivre en couple. J'ai choisi, moi, par contre, j'ai besoin d'être presque tout le temps libre. Et donc, du coup, moi, j'ai choisi d'avoir un homme les vacances le week-end. Et qu'il est, voilà, mais la semaine, je ne peux pas supporter.
Merci de nous offrir.
Mike, tu as une question.
Non, mais parce que...
Oui,
même si le mien, il est adorable, hein, en plus. Vraiment, il est comme ça, donc le pauvre.
C'était plus pour prolonger ces questionnements-là. Je trouvais que ce qui était intéressant, c'est que du coup, ça pose quand même une des questions qui traversent aussi ce colloque, qui est la question des matérialités, de la poésie et donc de ce que c'est que d'être poète et mère, et donc d'un point de vue financier, comment on fait pour vivre. Je trouve que la question que vous soulevez, Rime Batal, est vraiment très importante, en fait, cette question de comment on fait pour aller en résidence quand on a des enfants, parce qu'en ce moment le système littéraire, en tout cas, se structure beaucoup autour de ça. Il y a beaucoup d'auteurs qui vivent grâce à ça, ou qui en tout cas survivent grâce à ça. Et c'est une question qu'on avait déjà évoquée dans le séminaire de Christine Planté et Damien Zanon, et je pense que c'est justement vous, Rime Batal, qui l'aviez évoquée, mais donc cette question de comment on vit aussi quand on est poète et quand on est femme poète, et comment on doit insister pour pouvoir être payée, etc. Enfin, voilà, je voulais ramener cette question ici, peut-être pour savoir aussi ce que vous en pensiez, Sophie Loiseau, et je pense que c'est ça semble important d'en parler.
Moi, ça m'a empêché effectivement d'accepter des résidences. Hein, effectivement, oui, c'était trop d'absence. Hein. Effectivement, oui. Ça devrait être conçu un petit peu à la carte. Enfin, la poète, elle sait quand c'est possible. Je pense qu'il faut peut-être laisser plus de flexibilité aussi à la structure.
Oui, et puis prévoir, prévoir d'accompagner des personnes qui peuvent être avec des enfants, quoi. Ça, c'est des choses à anticiper aussi, je pense, pour les structures d'accueil. Et voilà, et j'ai peut-être une dernière question. Je vais regarder sur le Framapad si on a d'autres, mais non. Alors, du coup, est-ce que vous avez le sentiment, toutes les deux, d'écrire sur des objets illégitimes ? Et est-ce que, si oui, est-ce que vous rencontrez des obstacles ou des difficultés dans la réception de votre travail lorsque vous écrivez sur des objets jugés illégitimes?
Alors, pour ma part, moi, j'ai jamais, jamais pensé que c'était illégitime. Jamais. Je veux dire, j'ai toujours écrit dans la plus grande liberté qui soit. Je me suis jamais demandé ces questions maternité, création, je me les suis pas posées, en fait. La création et la maternité, tout ça, c'est... Il n'y avait pas de questions autour de ça. C'était parfaitement naturel, la symbiose de ça. Il n'y a pas eu de questionnement du tout. Et quant à, par contre, oui, j'ai eu quelques soucis parce que j'ai une écriture très libre, érotique, enfin bon, qui est quand même beaucoup sur le désir sexuel. Et oui, j'ai eu parfois des réactions un peu pénibles. Voilà, on m'a taxé de pornographe. Bon, ça a été liquidé parce que il y avait une histoire sur Wikipédia. Et bon, les choses se sont bien remises, mais parce que j'ai dû me battre. Ça m'a énervée. On ne dirait pas ça d'un texte d'homme, je pense. Enfin, on ne dirait pas ça. Et moi, j'ai été assez vite taxée de... Ça m'a énervée. Mais à part ça, je pense que... Il n'y a pas d'objet illégitime chez moi. Enfin, je n'ai pas ce sentiment.
Je te rejoins, Sophie. Moi aussi, j'ai pas de sentiment. J'ai pas l'impression qu'il y a de l'illégitimité dans le choix des sujets. Et quand j'écris sur un sujet X ou Y, j'ai pas l'impression de transgresser, en fait. C'est ensuite, quand je partage mes textes, quand je les lis, etc., que je me rends compte, en fait, qu'il y a un souci parce que la réception, parce que les réactions sont « Ah, mais comment tu peux pas dire ça ?» ou « C'est trop cru. » Cru et violent. on me sort tout le temps ça. Et à chaque fois, je me dis, mais ces gens, ils n'ont pas lu Bataille. C'est les mêmes qui portent Sade au nu. Et je n'arrive même pas au petit doigt de Sade en termes de violence et de...
C'est juste que Sade, c'est juste... je veux dire, c'est juste... comment dirais-je c'est un... j'ai pas le terme là parce que voilà, c'est comme Bataille ou comme Léris. Moi je les vomis assez en fait hein, par rapport aux femmes. Je trouve qu'elles sont assez ignobles quoi. Et donc on n'est pas en train de nous comparer, j'espère en tout cas. Voilà, je pense que c'est pas du tout. On n'est pas dans le même. On n'a pas d'interdit, on n'est pas dans la transgression, tu l'as dit en fait, Rim. C'est ça le truc, la différence.
Mm. Et la deuxième chose qui me surprend beaucoup aussi dans la réception, c'est qu'on lit mes poèmes comme érotiques, ce qui n'est pas du tout le cas. Je dois avoir un poème érotique, je crois, parmi tant d'autres. Et pareil, mais je dois, c'est pareil que d'écrire ton travail comme pornographique, en fait.
C'est ça.
Ça n'a rien à voir. Après, s'il y a des personnes qui sont piégées par de l'érotisme et en fait c'est ça, c'est à partir du moment où une femme prend en charge des questions de sexualité, du corps etc, et ben forcément c'est soit pour exciter, soit c'est pornographique, ça, oui. Trop cru, c'est ça. Quoi.
Prend en charge sa propre sexualité en plus, je veux dire, parle de son corps en fait.
Exactement.
Mais avec un je au féminin quoi.
Et encore une fois, ce sont quand même des choses qui sont en train de changer. Parce que je sens que d'un milieu l'autre dans lequel je circule, j'ai la chance de circuler dans des différents milieux de poésie très, très différents. Il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à lire de manière juste.
Oui, tout à fait.
Et reposant. Quand on se retrouve face à des gens qui comprennent, c'est...
Et même les femmes qui... moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir après des lectures pour me dire « Ah, mais ouais, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça parce que, voilà, quelque chose qui se libère. » Et ça répond aussi à des besoins, je veux dire, d'entendre comme ça l'écriture du désir des femmes. Ça répond à un besoin d'entendre ça, oui.
Voilà. Il y a une autre marque de Maryse Renée Hartmann que je vais vous lire. Le problème est aussi la structure sociale qui fait qu'on doit choisir puisqu'il n'y a pas assez de modes de garde, ni de partage égalitaire, ni des droits sociaux partagés pour que le choix de la maternité ne soit pas en concurrence avec la vie professionnelle, que ce soit artistique ou pas. Et Lucille, je crois que tu abondais aussi en ce sens. Je ne sais pas si tu veux... Si tu veux le dire à voix haute, non ?
Oui, c'est juste... Enfin, effectivement, j'abondais dans le sens de Maryse, quoi, dans le sens où effectivement... Vu qu'on parlait tout à l'heure des questions de carrière qui peuvent se lire effectivement sur le plan du mythe, du topos, de ce que ça induit, de ce que ce récit induit, etc. Mais il y a aussi tout un tas de réalités qui sont structurelles, quoi, même si on les vit très bien individuellement et qu'on ne les sent pas peser sur nous-mêmes, on sait que bon, au-delà de notre situation, du couple, etc., ça peut, voilà, les solutions sont bien au-delà en général du prisme individuel, quoi.
Oui, mais complètement.
Merci beaucoup. L'échange est vraiment passionnant, mais il va falloir qu'on termine. Je suis vraiment désolée.
Ouais, on pourrait parler comme ça, Jessica. C'est pas un problème.
Ça arrivera.
C'est clairement pas un problème. Mais merci beaucoup à tous les deux.
Merci
pour vos formidables lectures et pour votre échange passionnant et de vous êtes vraiment emparé cet espace de discussion pour débattre, ce qui est super, on est vraiment ravis. Et voilà, on va faire une pause et on va se retrouver à 15h45 pour le premier panel de l'après-midi. Non, pardon, 15h15, pardon, excusez-moi. 15h15. Désolée. Et merci encore Imbatal, merci Sophie Doiseau, c'était formidable.
Merci à vous toutes hein, pour tout le travail.